Vous écoutez
RMC.
Jeudi 24 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 8h, très bon réveil, très belle matinée à vous tous. Vous êtes bien dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal, Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. RMC vous le révèle ce matin, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Une jeune femme admise aux urgences a été violée par un faux patient. L'interdiction de la corrida débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Proposition de loi de la France insoumise. Et puis on ira prendre des nouvelles des Bleus en direct depuis Doha à 2 jours du match contre le Danemark.
Une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris, RMC vous le révèle ce matin.
Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Fin octobre, une jeune femme a été violée alors qu'elle venait d'être admise aux urgences. Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Chef du service police-justice d'RMC, vous avez enquêté. Le suspect, un homme sans papier, avait repéré sa victime juste avant son hospitalisation.
Oui, quand cette jeune femme fait un malaise à la sortie d'un bar et qu'elle tombe inanimée, un homme rôde et la regarde avec insistance d'après des témoins. Les pompiers emmènent la victime à l'hôpital Cochin et une heure plus tard, ils reviennent devant le bar car cette fois, c'est le rôdeur qui est au sol. Il simule un malaise selon des témoins, mais les pompiers le conduisent lui aussi à Cochin. Là, il quitte sa chambre et retrouve la jeune femme inerte. Il la viole et s'enfuit après lui avoir volé sa carte bancaire. Alors, au-delà des faits, l'un des avocats de la victime, maître Alexandre Laubry, porte plainte contre l'hôpital Cochin.
Ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a subi, et un autre traumatisme en raison du lieu. Un établissement public hospitalier, on y est pour être soigné et être en sécurité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Tout établissement public de santé a une obligation de surveillance.
Guillaume, on a aussi des éléments sur le profil de l'agresseur.
Oui, il se présente comme étant jordanien, âgé de 22 ans et serait arrivé en France en 2019. C'est un homme en situation irrégulière. D'après nos informations, il était sous le coup de 2 OQTF, 2 obligations de quitter le territoire, délivrées cette année sous 2 identités différentes. Il a été mis en examen et écroué.
Information RMC de Guillaume Bié, chef du service police-justice. La corrida dans l'arène de l'Assemblée. La France insoumise veut l'interdire. La proposition de loi portée par le député Émeric Caron, invité d'Apolline à 8h30, doit être débattue aujourd'hui. Texte qui a peu de chances d'être adopté. Même le président de la République l'a prédit hier. Il n'y aura pas d'interdiction et ce n'est pas la priorité. La corrida considérée comme un art de vivre dans le sud de la France. Les jeunes toreros ne sont pas du tout prêts à renoncer à leur passion dans leur école de formation à Garon près de Nîmes. Le reportage d'Estelle Henry pour RMC.
Ce sont 2 collégiens pas comme les autres qui ont un rêve en commun.
Mon objectif, c'est d'être matador de taureau.
Mais moi, pareil que lui, mon rêve, c'est de devenir matador de taureau, mais comme les grands.
Ici, Clovis et Rémi s'entraînent 2 fois par semaine avec une 20aine d'autres apprentis matadors. Ils enchaînent les gestes techniques avec toujours un objectif en tête, se mettre à la place du taureau.
Avant de savoir taurer, il faut savoir faire le taureau, parce que comme ça, au moins, on apprend comment le taureau y voit. On est sensible à sa souffrance, bien sûr.
Nous, on ne veut pas qu'il souffre.
Valentin, 19 ans, lui, a déjà tué des taureaux. Il réfute l'idée d'une forme de sadisme avancée par les anticorridas.
Parce qu'eux, ils voyaient la vision de la mort du taureau, les banderies, la pique. Mais il n'y a pas que ça. Nous, si on le tue, c'est pas par plaisir, parce qu'on a envie de tuer. On n'est pas des tueurs, bien au contraire. Moi, je ferai pas de mal à une mouche.
Des apprentis que forme Patrick Varin, ancien matador. Pour lui, le vrai tueur, c'est surtout le taureau de combat.
Il faut qu'on revienne quand même à connaître l'animal, le taureau. Ça fait 500 ans qu'il est sélectionné pour le combat. Ils sont là pour tuer. Moi, j'ai eu des copains, ils y sont restés. Hein. La mort, pour nous, elle n'est pas dans une barquette aux prises uniques. Hein.
Depuis la rentrée 2022, le Centre français de tauromachie n'a jamais eu autant d'élèves.
Les insoumis qui profiteront aussi de cette journée pour faire inscrire l'IVG dans la Constitution. La France insoumise qui doit dans le même temps gérer l'affaire Quatennens, il ne retournera pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Décision prise hier par les responsables LFI à la justice de trancher après les nouvelles révélations de son épouse. Dans un communiqué, Céline Quatennens a dénoncé des colères, des violences physiques et morales depuis plusieurs années. Une version contestée par le député du Nord. Au sein de la NUPES, certains élus veulent aller plus loin. Le porte-parole des députés socialistes, Arthur Delaporte, réclame carrément le départ d'Adrien Quatennens.
Adrien Quatennens doit démissionner. Il n'a plus sa place à l'Assemblée nationale. Cette accusation, finalement, même si on peut dire qu'en droit, il faut attendre le procès, elle jette un soupçon sur l'éthique et sur le comportement d'un responsable politique. Et donc, il ne peut plus avoir sa place dans les rangs de la NUPES qui défend des valeurs féministes et notamment le fait de croire dans la parole des femmes. En l'occurrence ici, on a l'expression de la parole d'une victime et il faut la prendre en considération et en tirer les conséquences.
Attention, la grippe arrive, et une grippe virulente. 5 régions déjà placées en stade pré-épidémique et vous êtes nombreux à ne pas vous être fait vacciner. 4 millions de vaccinés depuis un mois et demi, depuis le début de la campagne de vaccination, contre 5 millions l'an dernier. Les autorités sanitaires craignent la surcharge des hôpitaux. C'est la journée de la précarité énergétique. Au moment où les prix de l'énergie ont augmenté de 28% sur un an, les associations s'inquiètent de plus en plus de ménages, pas forcément en plus en situation de précarité, se privent de se chauffer. C'est le cas de ce couple qu'a rencontré Marilyn Ottman pour RMC. Ils vivent dans l'heure et leur logement est une passoire thermique.
Dans l'appartement que loue ce couple d'enseignants, les 4 pièces sont toutes mal isolées.
Et là, on est où ?
Dans la salle de bain.
Je crois que la fenêtre est mal collée au niveau du mur. Évidemment, pour chauffer cette pièce-là, c'est quasiment impossible.
On a très froid.
Seule la chambre à l'étage est chauffée, mais quelques heures par jour.
On a le chat qui se cache tout le temps dans la chambre, c'est là où il fait le plus chaud.
Concrètement, là, si vous laissiez tous les chauffages allumés...
Essayez d'atteindre les 18-19 degrés, on serait à minimum 500 euros pour un mois.
Une situation qu'ils ont du mal à accepter.
En salaire net, on est autour des 1800-1900 euros. C'est assez affligeant de voir que... On fait partie de la classe moyenne, on n'est pas à plaindre, mais on a quand même beaucoup de mal à se chauffer. Donc moi, j'imagine même pas les gens qui sont vraiment en grosse difficulté économique en général.
La flambée des prix de l'énergie fait plonger de nouveaux ménages dans la précarité énergétique. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, lance l'alerte.
On n'est qu'au début de la hausse des prix de l'énergie. Il n'y a aucun économiste qui pense que les prix de l'énergie vont chuter en 2023 ou 2024.
L'an prochain, les factures de gaz et d'électricité vont encore gonfler. Le gouvernement a promis de limiter la hausse des prix à 15%.
Et J-2 avant le deuxième match des Bleus contre le Danemark.
RMC Coupe du Monde 2022.
Avec en ligne de mire la qualification pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, conférence de presse et entraînement au programme. On retrouve en direct de Doha Fabrice Hawkins, l'un des envoyés spéciaux de RMC. Fabrice, avec le forfait de Lucas Hernandez, la défense est toujours en chantier. Ce qui amène Didier Deschamps à tester des options assez surprenantes.
Il faut de tout pour faire une équipe et le problème de la défense des Bleus, c'est qu'il n'y a presque plus de gauchers, donc Didier Deschamps a essayé le milieu et Eduardo Camavinga au poste d'arrière-gauche. Une première pour le joueur, c'était lors d'un match amical hier soir contre le club qatarien d'Al Gharafa. Le bricolage de Didier Deschamps a plutôt bien fonctionné puisque dans son nouveau rôle, le milieu du Real Madrid a marqué un but. Le sélectionneur obligé d'être un peu créatif avec la blessure du défenseur Lucas Hernandez mardi soir. Un Hernandez pour en remplacer un autre puisque c'est son frère Théo qui sera titulaire, mais derrière il n'y a plus personne. Dans le staff, on croise les doigts pour que Théo Hernandez reste en bonne santé, mais si la malchance se poursuit, c'est Eduardo Camavinga qui pourrait découvrir un nouveau poste.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins en direct depuis Doha. Et aujourd'hui, c'est l'entrée en lice du Brésil contre la Serbie, ça sera à 20h. Et avant cela, le Portugal joue contre le Ghana à 17h. Match à suivre en direct sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. On va maintenant faire la connaissance de la toute nouvelle recrue de l'Agence spatiale européenne, Sophie Adnaud, 40 ans, bourguignonne, un CV exceptionnel. Elle est ingénieure, pilote dans l'armée et surtout, elle a été choisie parmi 22 000 candidats pour devenir la deuxième femme astronaute française de l'histoire après Claudie Aigneret, un de ses modèles d'ailleurs. Le spatial, elle en rêvait depuis enfant.
C'est un moment assez incroyable que certes j'ai rêvé depuis petite fille, mais le rêve il devient même pas concret aujourd'hui parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe en réel. J'y ai travaillé, ouais, j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours rêvé en fait du spatial depuis très longtemps. C'est un nouveau monde, c'est beaucoup d'inconnus, mais bon, je le prends avec beaucoup d'optimisme et de simplicité. Bon, je vais apprendre le job au fur et à mesure.
L'annonce a été faite hier depuis le Grand Palais éphémère à Paris. Une promo de 5 nouveaux astronautes qui va succéder à celle de Thomas Pesquet. Un peu de patience avant la mise en orbite, probablement à partir de 2026.
Elle est assez fascinante quand même, cette nouvelle astronaute avec un pédigré inouï. Il est 8h09, c'était le journal de Marguerite Dumont.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, c'est Thierry Marx qui sera avec nous. Thierry Marx, le chef étoilé, il défend son parti pris. Il vient d'être élu à la tête du premier syndicat de restaurateurs, l'UMIH. Et sa toute première interview, c'est sur RMC dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h13 sur RMC, belle matinée à tous.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est le vôtre ce matin. Thierry Marx, bonjour.
Bonjour.
Thierry Marx, vous êtes chef étoilé et désormais vous êtes le patron. Vous avez été élu il y a un mois à la tête du principal syndicat des restaurateurs, l'UMIH, qui tient son congrès en ce moment. Merci d'avoir choisi RMC pour cette interview. Beaucoup de sujets brûlants. D'abord, l'énergie. Vous avez demandé un effort aux fournisseurs d'énergie pour aider les restaurants et les hôtels. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause ?
Alors, j'ai pas encore obtenu gain de cause sur cet effort que j'ai demandé, mais la pression est excessive sur les professionnels, bien évidemment. On voit des factures multipliées par 8, donc ce qui est insupportable pour beaucoup d'entreprises. En arrivant, en plus, il y a l'effet ciseau, ce qui arrive, l'effet ciseau du PGE, des remboursements de PGE, l'augmentation des coûts des matières premières, et là, une augmentation du coût de l'énergie qui est extra forte, je dirais.
Ça devient une sorte de double coup près, quoi. C'est-à-dire il va falloir rembourser ces prêts garantis par l'État et au même moment ces factures d'électricité qui explosent.
Exactement, on a des gens qui passent de 40 000 euros, des confrères et des consoeurs qui passent de 45 000 euros une facture à 100 000 euros. Enfin, ça devient complètement fou. Ils redoutent cela. Et ils redoutent de ne pas pouvoir ouvrir leur établissement avec un tel coût de l'énergie. Alors, c'est très inégal. On est en train de faire remonter département par département toutes les informations dont nous avons besoin pour être force de proposition auprès du régalien pour essayer d'être un peu mieux entendu et un peu mieux compris.
Et vous devenez donc la voix, en effet, de ces restaurateurs, Thierry Marx. Mais ce matin, on entendait Alexandra, qui est boulangère dans le Doubs, qui était avec Charles à 6h10 ce matin et qui disait c'est une catastrophe, y compris pour nous les boulangers, pour tous les artisans. Et elle prévoyait que dans les tout prochains mois, elle disait ça va venir très vite, en février-mars, on va s'écrouler et on est nombreux à envisager de mettre la clé sous la porte. Thierry Marx, est-ce que certains restaurateurs vous disent cela ? Est-ce qu'ils vous disent on a peur
du
début de l'année là ?
On a des restaurateurs, des hôteliers restaurateurs en milieu rural comme en milieu urbain qui nous disent ça va pas être possible, on passera pas, on ne pourra pas ouvrir, on ne pourra pas assurer le remboursement de ce que nous devons. Encore pire pour ceux qui sont nouveaux chefs d'entreprise, qui ont acheté leurs affaires il y a 4 ou 5 ans, qui ont renégocié ou qui sont en phase de renégociation de leur contrat d'énergie. Donc les boulangers évidemment disent cela et ils ont raison, et nous avons la même remontée des départements et des régions qui nous disent c'est catastrophique pour certains d'entre nous, parce que alors c'est très inégal, mais c'est catastrophique pour certains d'entre nous, nous ne passerons pas l'hiver,
voilà ce cri du cœur. Thierry Marx, une autre difficulté qui s'ajoute à celle-là, c'est celle du recrutement. Est-ce qu'il manque encore du personnel dans les hôtels et les restaurants ?
Il manque encore du personnel dans les restaurants, la saison arrive, nous avons besoin de saisonniers et il faut effectivement continuer la formation professionnelle très accélérée pour pouvoir former des personnes qui peuvent intégrer des postes qui sont à disposition dans les métiers de l'hôtellerie-restauration et les métiers du tourisme.
Une question aussi sur le plafond du ticket restaurant. Il est passé à 25 euros. Il y a d'autres syndicats de restaurateurs, dont le Groupement National des Indépendants, qui appellent à ce que le ticket restaurant ne serve qu'au restaurant et qu'il ne soit pas possible de l'utiliser pour simplement faire ses courses dans n'importe quel Franprix ou G20. Qu'est-ce que vous dites à ça, Thierry Marx ?
Bien, ça s'appelle ticket restaurant, c'est pas un chèque d'aide d'achat alimentaire, donc il faut respecter un peu les engagements et faire en sorte que ce ticket restaurant aille à destination pour les restaurateurs, bien évidemment. Mais on peut prévoir et étudier d'autres formes de tickets, mais pas restaurant, qui s'appellerait autrement. Mais là, effectivement, les restaurateurs se sentent un peu floués par ce ticket restaurant qui ne leur revient pas finalement.
Qui ne leur revient pas. Thierry Marx, merci en tout cas d'avoir réservé quelques mots. Vous êtes chef étoilé donc et désormais le patron du groupement principal syndicat des restaurateurs, l'UMIH. Vous étiez depuis Brest où se tient votre congrès, mais je vous attends bien sûr en studio, en plateau, dès que vous serez de retour à Paris, les 8h17.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Dites donc, il a changé Emmanuel Le Chypre.
Oui.
Il a été transformé en Nicolas Poincaré. Comme ça, pouf, c'est la magie. C'est le plus grand cabaret du monde. C'est génial. C'est génial. Il y a Nicolas Poincaré qui va nous faire sa prochaine chronique en jonglant sur un tricycle en imitant Louis Funès. C'est génial. Putain, j'ai hâte de voir. Vous nous faites ça tout à l'heure.
Moi aussi, j'ai hâte de voir.
Alors, Apolline, vous interrogez Émeric Caron ce matin. Les Insoumis sont évidemment embarrassés sur l'affaire Quatennens. Vous avez vu, il devait revenir à l'Assemblée nationale et patatras, sa femme réaffirme que les violences physiques et morales ont duré plusieurs années. Vous voyez, Éric Ciotti et François Fillon, bon, ce qu'ils font, c'est pas très moral. Mais au moins, quand ils entraînent leur meuf dans leur déboire judiciaire, c'est parce qu'ils l'ont mise bien quand même. Hein. Des petits boulots fictifs pépères, il y a de la thune, des restos aux frais du contribuable. Escrocs, mais féministes, les gars. Pénélope, elle a eu la belle vie quand même.
Et puis elle a bossé quoi, c'est-à-dire c'est pour le travail des femmes. Le réseau de fournisseurs d'énergie RTE, Arnaud, qui alerte sur de possibles coupures d'électricité en janvier.
Oui, mais relativisons. On redoute ça parce qu'on est douillet. Voilà, mais en Tchétchénie ou en Sibérie, ils le vivraient vachement mieux que nous. Hein. Les mecs, ils se baignent sous la glace, ils boivent du gasoil au petit-déj, ils se battent à main nue avec des ours pour rigoler. Tu leur annonces qu'il y aura moins de chauffage, ils réagissent pas comme nous, clairement. On devrait s'en inspirer. Alors, il y a bien une solution à laquelle personne n'a pensé, que je soumets à votre approbation, l'hibernation générale. C'est-à-dire que le gouvernement nous file un puissant sédatif. On dort tous du 1er janvier au 3 mars, ça consomme pas d'électricité et on est super en forme pour le reste de 2023. Personne n'a envie de bosser en janvier, non, autour de cette table. Apolline, sérieux, est-ce que vous avez envie d'interviewer Stanislas Guérini ou Sébastien Chenu un matin de janvier? Non, soyez honnête.
Un matin de janvier.
Mais oui, à chaque fois que j'entends parler d'ailleurs de possibles coupures d'électricité, je pense à ces pauvres gens qui sont au chevet d'un parent malade à l'hôpital. Écoute, papy, je voulais te dire un truc. Je pense que... Papy, il est mort. Papy. Ah putain, non. C'était le courant. T'inquiète pas, papy, ils ont basculé sur leur générateur. Donc, je voulais te dire, concernant l'héritage, moi je crois que c'est mieux si... Oh. Non mais là, c'est chiant, là, à la fin. On sait pas qui va flancher le premier, si c'est le DF ou si c'est papy.
Arnaud, par ailleurs, notons que 24 réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt.
Oui, malgré les efforts d'Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique, pour faire accélérer les choses. D'ailleurs, nos équipes se sont procurées un document exclusif. On écoute. EDF, bonjour.
Oui, bonjour. Je m'appelle Agnès Pannier-Runacher et j'avais une question au sujet de la gestion des énergies à faibles émissions. Mes centrales nucléaires ne fournissent aucune tension. Je peux pas alimenter mes habitations.
Très bien, Madame Pannier-Runacher.
Non, c'est Pannier-Runacher.
D'accord, Madame Pannier-Runacher. Vos centrales, vous avez essayé de les débrancher puis de les rebrancher. Je suis pas sûr que ce soit une solution.
Je kiffe. Et puis vous vouliez, Arnaud, nous parler d'une prouesse médicale, une patiente toulousaine qui s'est fait greffer un nez.
Ouais, elle s'est pas fait graisser, la pauvre. C'est pas une prouesse médicale, il suffit juste de manger des gâteaux.
Elle s'est fait greffer un nez imprimé en 3D qu'on a d'abord greffé sur son bras pour la vascula.
Oui. Vous avez très bien décrit cette opération, Apolline, c'était merveilleux.
C'est
très grande vulgarisatrice médicale quand même. Non, c'est une très très belle histoire de nouveau-né. Donc je résume, ils ont imprimé d'abord un nez dans un biomatériau et ils l'ont effectivement greffé sur l'avant-bras de la patiente pour que la peau et les vaisseaux sanguins colonisent la structure. Voilà. Et après, c'est plus rapide que sur le visage, après ils ont découpé le nez, ils l'ont greffé à la bonne place. Mais ne riez pas. C'est vrai que pendant 2 mois, elle a eu un nez sur le bras. C'est costaud de faire pousser un nez, vous moquez pas. Moi, j'arrive déjà pas à faire pousser du basilic. Alors, au début, ça peut être déconcertant, mais voyons les avantages. Imagine, t'es œnologue, on te met 14 pifs sur l'avant-bras. T'es capable de reconnaître un grand cru à 14 kilomètres, c'est quand même cool. En tout cas, ça ouvre la porte à beaucoup d'avancées scientifiques, à condition de pas tomber sur des étudiants farceurs.
Et dis donc, Jamy, je voulais te parler de cette nouveauté technologique, Jamy. Se faire pousser un organe sur le corps. Mais je n'ai pas eu de chance, Jamy. Des internes en médecine blagueurs ont profité de mon anesthésie générale pour me greffer une zigounette masculine au milieu du front, Jamy. J'ai l'impression d'être charlemagnien, Jamy. C'est à mon tour d'avoir une queue de cheval sur la tête. Alors que j'avais juste demandé un nez sur l'avant-bras, Jamy. Une technologie qui pourra nous servir à tous. Ou quasiment, Jamy, parce que si j'étais Philippe Croizon, je ferais gaffe à mon nez, vu qu'il a pas de quoi faire pousser des remplaçants.
Ah, c'est beau la science, c'est tellement beau. Allez, à demain.
Arnaud Demanche, tous les matins, 7h20, 8h20 sur RMC. Et en podcast, bien sûr, il est 8h23 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, mon invité, c'est Aymeric Caron. Aymeric Caron, l'ancien chroniqueur télévisuel, qui est devenu député La France Insoumise. Député La France Insoumise et qui, cet après-midi à l'Assemblée, tentera de faire interdire la corrida. Il est face à moi, c'est dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.